Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 10 novembre. Bonne journée. Pardon, 10 mars. Ça va bien. Je vous souhaite une excellente journée avec de belles prévisions météo pour aujourd'hui et également pour la fin de semaine. Alors, c'est autour de 0 degré pour l'ensemble de la journée aujourd'hui. Soleil, nuages. Je vous dirais, le soleil devrait dominer et ça donne des journées un peu comme hier avec des airs de printemps. Pour la fin de semaine, samedi, soleil, nuages autour de 1 degré. Et puis dimanche, alors qu'on sera en plein changement d'heure, ben on prévoit du soleil, belle journée, température autour de 2 degrés. La neige est prévue seulement pour la semaine prochaine, notamment pour la journée de mardi. Je commence ce matin par cette fusillade dans une salle du royaume des Témoins de Jéhovah en Allemagne. Le bilan a été donné ce matin par les autorités de la ville de Hambourg, où ça s'est produit, et on parle de 8 personnes décédées, un nombre indéterminé de personnes grièvement blessées, et parmi les victimes, on retrouve le tireur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est enlevé la vie? Est-ce qu'il a été neutralisé? C'est pas clair. Et selon le magazine Der Spiegel, l'auteur présumé de ces coups de feu serait un ancien membre des Témoins de Jéhovah, selon les témoins, une trentaine d'années environ, et était armé d'un pistolet. Et c'est arrivé lors d'une cérémonie de prière à l'intérieur de ce qu'on appelle la salle du royaume des Témoins de Jéhovah. Alors, première nouvelle ce matin. Deuxièmement, le dossier de l'ingérence chinoise. Il y a plusieurs aspects. On va regarder différents angles avec notre collaborateur Jean-François Lépine tantôt. Mais d'abord, quels sont les faits? On vous le disait hier matin, la GRC confirme enquêter sur 2 présumés faux postes de police chinois installés dans le Grand Montréal, donc notamment à Brossard, et aussi comme tel à Montréal. Pourquoi ces faux postes de police? Essentiellement, c'est ce qu'on a vu à Toronto, c'est ce qu'on a vu à Vancouver, et il s'agit pour l'État chinois d'avoir une antenne, par exemple à Montréal, et des ramifications avec la diaspora chinoise qui est implantée ici. Bon, on sait qu'à Brossard, par exemple, forte présence de la communauté chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Selon certaines sources, il y a des gens qui ont quitté la Chine pour venir s'installer ici, qui ont encore de la famille là-bas. C'est une façon d'exercer de la pression. Il y a des cas, et la police l'a dit, là, on soupçonne du harcèlement, de l'intimidation, voire même de la violence. Il y a cette conseillère municipale de Brossard qui, semble-t-il, joue un rôle. Elle a tout nié. Elle a dit pas du tout, on est ici pour permettre à nos amis ressortissants de, par exemple, apprendre le français, comprendre dans quelle communauté ils viennent vivre. Mais donc, on se retrouve avec ces faux postes de police qui exerce une pression sur les gens de la communauté. Et c'est là qu'on voit un peu la stratégie chinoise. C'est-à-dire, dans le cas des élections, s'assurer que, par exemple, des gens se présentent dans des postes stratégiques. Au niveau municipal, ça peut être au niveau fédéral. On l'a vu dans le cas du Parti libéral du Canada. Toute la notion de financement, donc de vouloir se mêler, une espèce d'ingérence, et aussi intimider des Chinois qui sont au Canada. M. Trudeau refuse une enquête publique. Il l'a répété encore hier. Et c'est intéressant de voir Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères, dire qu'elle a bloqué l'arrivée au Canada, donc l'émission d'un visa, parce qu'elle était convaincue que ce voyageur de la Chine était ici pour se mêler, faire de l'ingérence, donc se mêler des affaires canadiennes. Elle dit, c'est plus facile bloquer quelqu'un qui veut entrer que d'expulser un diplomate. Je lisais ce matin qu'on n'a pas besoin d'avoir des preuves béton pour expulser quelqu'un. Mais on ne veut pas non plus, ce qu'on a compris, disons, avoir des relations encore plus tendues avec la Chine. Et là, c'est comment tu trouves l'équilibre entre la naïveté canadienne qui s'évapore depuis quelques mois, le maintien de relations d'affaires dans un contexte comme celui-là. Et donc, Mélanie Joly a dit hier, si jamais on nous fait la preuve qu'il y a des gens qui, par exemple, parmi les diplomates, jouent un rôle dans la propagande, dans le cadre d'une campagne électorale ou autre, ben, on pourra agir, on pourra intervenir. Mais c'est extrêmement dangereux ce que joue M. Trudeau. Comprends la stratégie politique, je nomme un intermédiaire qui me dira si ça vaut ou pas la peine de faire une enquête publique. Mais ça crée énormément de pression sur la communauté chinoise. Et je vais vous dire personnellement, là, ce qui me rend un peu perplexe devant tout ça. Là, on parle beaucoup, beaucoup de la Chine. On parle de quoi? Propagande, influence sur les élections, ingérence, espionnage, intimidation. Et je me souviens quand la COVID, la pandémie a commencé, puis on disait c'est à cause des Chinois, il y a eu des événements racistes au Canada. Puis là, la crainte de plusieurs, c'est qu'on cible des gens qui sont déjà malheureusement ciblés et qu'il y a encore ces relents-là en disant, ben c'est ça, regardez les Chinois, là, ils sont partout puis ils sont en train de nous voler. Tu sais, faut pas être naïf, mais faut pas être raciste. Et M. Trudeau entretient un peu le mystère autour, tu sais, je ferai pas d'enquête, c'est secret, vous le saurez pas. Politiquement, c'est peut-être la bonne stratégie, mais comme chef de gouvernement, disons que c'est questionnable. Donc Jean-François sera avec nous tantôt et on va faire le point là-dessus. Maintenant, juste peut-être compléter là-dessus pour vous dire qu'en Chine, Xi Jinping a solidifié son statut et il est le leader chinois avec le plus de pouvoir depuis je ne sais pas combien d'années, Jean-François nous le dira peut-être, mais il est en plein contrôle et on ne voit pas autour de lui de dauphin, de relève, contrôle le parti, contrôle l'armée, contrôle l'État. Et tout ça dans un contexte de politique intérieure, avec sa politique COVID-0 où il est contesté, on sait qu'il y a eu des manifestations, l'économie a été, disons, bousculée. La reprise, ça prend un certain temps. Et donc, pouvoir absolu, mais avec d'énormes défis, puis surtout ses confrontations, notamment avec les Américains, avec l'Ouest en général. Je vais vous parler maintenant du trafic d'êtres humains. Trafic de femmes et de jeunes filles principalement. Le Globe and Mail a pu prendre connaissance d'une étude faite au Canada par Thomson Reuters, où on a regardé qui sont les entreprises, ou quelles sont les entreprises, pardon, avec pignon sur rue au Canada, dans les grandes villes, puis dans les petites villes, qui se livrent au trafic des femmes. Et selon leur étude, on a identifié 700 entreprises différentes qui servent essentiellement, donc, à faire du recrutement, à vendre des filles, à exploiter des filles, par le biais de salon de massage ou l'équivalent. Et que on fait donc du blanchiment d'argent, puis on s'occupe d'un réseau de prostitution, puis des filles qui viennent beaucoup de l'étranger, des mineurs, et c'est donc la traite des blanches. Et quand vous regardez le tableau, le profil qui est fait, au Québec, on a recensé 103 établissements. Montréal 76, Laval 9, Longueuil 7, Québec 4, Pierrefonds 2, Côte-Saint-Luc 1, Dorval 1, Greenfield Park 1, Laval 1, pas Laval, pardon, Westmount 1. Ça en fait beaucoup. Et l'absence d'une cohésion nationale, dit l'enquête, permet à des gens de se faufiler avec des compagnies bidons, des fameuses coquilles, qui leur permettent comme ça d'opérer sans trop se faire achaler. Donc, dans Globe and Mail, tous les détails. Très bien, on va reparler ce matin de cette histoire terrible. C'est un enfant de 4 ans, en 2008, qui a été assassiné par sa belle-mère. Donc, elle vivait avec le père du petit. Et c'est pas juste un meurtre, là. C'est une longue période où l'enfant a été battu, martyrisé. Je lisais dans la presse, là, le détail, bon, c'est épouvantable, là. L'enfant fouetté, morsure, etc., etc. Et finalement, il est décédé. Puis les experts qui ont témoigné ont dit, on n'a jamais vu un enfant aussi maltraité. On est horreur l'enfant martyr, là. Et puis, la belle-mère, Stéphanie Meunier, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, prison à vie, et théoriquement, pas de libération conditionnelle avant 25 ans. Or, on apprend qu'elle bénéficie de sortie pour toutes sortes de raisons. Et la presse nous dit maintenant que depuis 5 ans, la commission permet à Mme Meunier de sortir sous supervision pour différentes raisons. On sait pourquoi exactement. On va essayer de comprendre les mécanismes, là. On parlait avec un avocat spécialisé tantôt, là. Mais tu sais, là, c'est arrivé en 2008. Ça fait 15 ans. Supposément qu'elle n'a pas le droit de libération. Elle va suivre un cours. Elle va voir le médecin. On parle de plusieurs jours par semaine où il y a cette sortie supervisée. Puis elle dit qu'elle regrette, évidemment, là. Puis que l'enfant ne méritait pas ça. J'espère. On comprend la notion de réhabilitation, mais il y a des cas où on se dit pourquoi on permet ce genre de sortie, puis qu'est-ce que ça donne au bout? On va essayer de le voir ce matin. La SAC, pas grand-chose à vous dire ce matin de nouveau. Je sais, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, là, les fameux enjeux de la fin du mois de mars pour tout ce qui est commercial, taxi. Je sais que la ministre, Mme Guilbeault, va faire une mêlée de presse un peu plus tard aujourd'hui. Peut-être des choses à annoncer. Mais j'ai plein de messages de gens. Par exemple, des travailleurs qui ont obtenu donc la possibilité de faire ce qu'on appelle du transport rémunéré. Alors, taxi, Uber, bon. Et ils ont acheté, ont loué une voiture pour faire le transport en question. Et là, ils attendent d'avoir, par exemple, les papiers requis, et ça vient de la Société d'assurance automobile du Québec. Puis pendant ce temps-là, même s'ils ont des paiements à faire, ben ils sont pas capables d'obtenir. C'est complètement aberrant. Puis là, je le sais que la stratégie de la CAQ, du gouvernement, c'est de dire, là, faut régler les problèmes. Oui, il faut régler les problèmes, mais rien n'empêche qu'on a le droit de se questionner sur la cause et comment on a pu l'échapper. Et surtout quand le ministre Éric Kerr nous dit que le deuxième chantier majeur, c'est la santé. Et vous pensez, là, la santé, votre dossier médical, tout ce qui concerne la gestion du réseau de la santé au Québec. Et je rappelle, ils font des appels d'offres de mammouth, ils sont même pas capables d'aller chercher une entreprise intéressée, ce qui fait qu'ils recommencent l'appel d'offres. Je peux pas dire que ça promet. Aussi, on va revenir ce matin sur la présence dans les rues de Montréal d'une drogue qui s'appelle xylazine. C'est une espèce de calmant pour les animaux, entre autres pour les chevaux. Et là, la santé publique de Montréal dit qu'on a fait des études. Et là, on parle pas là, de produits vendus légalement. Là, on parle de trucs qui se vendent dans les rues de Montréal. Il y en a beaucoup, Toronto, Vancouver. Puis c'est tout le temps ça. Hein, vous remarquez quand il y a eu la crise du fentanyl, la crise des opioïdes. Ça part beaucoup de l'Ouest, ça s'en vient vers Toronto, puis comme dirait l'autre, une fois qu'on le constate à Montréal, c'est que c'est déjà implanté depuis un certain temps. Donc, ils ont fait des analyses et ils ont trouvé la présence de ce sédatif, ce qui peut amener des complications, ça peut amener des abcès, des ulcères, dit-on, des infections, toutes sortes de problèmes. Puis, et souvent, on le sait, ce sont des gens qui dont l'état de santé est pénible. Alors, on va en reparler ce matin. Aussi, puisqu'on est dans le domaine de la santé, il y a le ministre Jean-Yves Duclos qui a envoyé une lettre au ministre de la Santé des provinces. Message, il peut pas y avoir de frais d'imposer aux patients à travers le Canada. Et là, on découvre depuis un certain temps, puis ça a pris de l'ampleur avec la télémédecine, là, durant la pandémie, qu'il y a des entreprises qui, actuellement, offrent des soins virtuels et chargent aux patients. Vous avez TELUS Santé qui fait ça, entre autres, puis des firmes à travers le Canada, dont une qui est pilotée par l'OBLA. Et parfois, vous pouvez donc avoir une consultation médicale avec un médecin qui n'est pas au Québec. Certains, c'est au Québec. Et il y a des montants qui sont facturés. Et ça varie, dans certains cas, pour une consultation, 69 $. Puis là, on parle pas de médecins qui se sont désengagés. Là, on parle de médecins qui sont du réseau public, mais on vous impose un montant de 69 $. Dans certains cas, ils vendent des forfaits de 30 $ par mois pour un certain nombre de visites. Alors, qu'est-ce qu'il dit le ministre? C'est que d'aucune façon, les gens doivent payer. Puis il faut que les provinces prennent les mesures pour que ça soit ça. Et si elles ne le font pas, on va couper dans les montants qui leur sont alloués. Alors, Radio-Canada, le Globe and Mail, parle donc de cette lettre que M. Duclos a envoyée. J'attire votre attention ce matin sur la faillite potentielle de Air Miles. La société qui gère Air Miles devrait se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans les prochains jours. C'est une question de temps, là. Et depuis quelques jours, la nouvelle circule. Et là, on a l'impression que... en tout cas, disons qu'on pourrait être très clair, on est dans le flou. Il va se passer quoi avec Air Miles? Est-ce qu'on va déclarer faillite? Est-ce qu'on va vendre des actifs? Est-ce que quelqu'un va donc reprendre l'entreprise? Et vous, comme détenteur de cartes, vous vous dites, et de comptes, là, il arrive quoi? Puis je ferais remarquer que depuis les derniers mois, plusieurs joueurs laissent tomber Air Miles. C'est Jean Coutu là, qui a traîné ça pendant longtemps, a dit, nous autres, c'est fini, là, je pense, dans quelques semaines. Et d'autres bannières. C'est une carte qui est en perte de vitesse. Mais là, vous avez des points. Puis il y a des gens qui gardent ça pour des voyages, puis qui accumulent depuis longtemps. Mais donc, pour le moment, disons que c'est assez flou. On n'a pas d'autres précisions. Et puis, un mot sur l'Ukraine. Vous dire, et je mentionnais tantôt, Fabrice est tout près de Bakhmout. Parle avec des militaires, notamment des équipes de secours qui font l'évacuation des soldats qui ont été blessés. Et on sait que les frappes ont fait quand même des dommages importants. Il y a des photos satellites de Bakhmout qui circulent où on voit les zones qui ont été touchées et dévastées. Puis je veux finir ce matin par cette histoire assez incroyable. Vous avez vu ces Américains qui se sont rendus au Mexique. Et c'est le tourisme médical et plus souvent qu'autrement de chirurgie plastique attire beaucoup, beaucoup d'Américains vers le sud. Donc, il y a eu kidnapping. Pour faire un résumé, cet assaut s'est terminé par la mort de deux Américains et d'un Mexicain. Eh bien, imaginez-vous que selon certaines informations, on a retrouvé cinq hommes plutôt, ligotés, vivants, là, je précise, là, mais ils étaient ligotés au sol et il y avait une note d'un puissant cartel de la drogue du Mexique en disant « On est désolé de ce qui s'est passé. Voici les responsables de cet enlèvement et de la mort de ces deux Américains. Et on s'excuse. » Et ça a l'air que c'est une pratique assez courante de voir des cartels de la drogue coller des notes sur des gens décédés ou des gens vivants qu'on vient livrer, donc des avertissements. Par même temps, dans ce cas-là, on parle ici d'excuses.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, on avait un peu, je dirais, une espèce d'environnement printanier, ou presque. Ça faisait rêver. Et aussi, ben, quand ça arrive, on pense au nid de poule. Et je voyais ce matin les chiffres dans la presse. Montréal qui prévoit cette année colmater 110 000 trous dans la chaussée. C'est en augmentation par rapport aux dernières années. Et il y a évidemment l'école bleue qui vont faire ça. Ils ont également de l'équipement. Là, le Python 5000 qui, paraît-il, peut boucher une centaine, non plus que ça, 300 nids de poules en une journée. Et il y a eu des réclamations qui ont été faites à la ville par des automobilistes qui ont subi des dommages. 143 réclamations causées par un nid de poule. Ça, c'était pour janvier et février 2022. Puis là, on est rendu quand même un peu plus. Puis des réclamations qui peuvent représenter quelques centaines, voire même quelques milliers de dollars. On s'est dit, il faut quand même faire un peu le point. On a l'impression qu'on bouge des trous, mais qu'on recommence à chaque fois, que c'est comme du maquillage, mais il y a peu de changements de fond. Éric Lachance Tremblay est avec nous. Il est professeur au département de génie de la construction à l'ETS, l'École de technologie supérieure. Monsieur Lachance Tremblay, bonjour.
Bonjour, bon matin.
La première question, avec l'hiver qu'on vient de connaître, parce que c'est différent chaque année, là, est-ce que c'est un hiver qui devrait générer plus de nids de poules qu'en temps normal, autant ou moins?
Ben moi, je dirais que cet hiver a été relativement doux pour les chaussées. Donc, on n'a pas eu d'importants redoux suivis de périodes de froid très intenses. C'est ce qui est très dommageable. Là, on a eu une température qui était relativement constante. Là, il faisait toujours un peu froid, puis pas d'épisode de pluie. Donc, je dirais pas que cet hiver va être plus propice à des nids de poules que les hivers précédents.
OK. Quand vous regardez Montréal, avec le nombre de nids de poules, puis on parlera de d'autres villes un peu plus tard, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la Ville de Montréal pour gérer les nids de poules?
Ben Montréal, il y a une particularité là, qui les distingue des autres villes, c'est le fait que dans le sous-sol des routes, là, donc dans la structure de la route, il y a plusieurs services. On a des conduits électriques, des conduits de gaz, des conduits de télécom, et tous ces intervenants-là, ben ils planifient leurs interventions du mieux qu'ils le peuvent. Fait que ça fait en sorte que des fois, ben on a une réparation qui se fait sur une chaussée. Et deux mois plus tard, on doit venir faire une intervention au niveau du télécom ou du niveau de l'électricité, par exemple. Et là, on réouvre une section de la chaussée, puis on refait une intervention. Puis ça vient faire une zone où c'est plus sensible à cet endroit-là. Donc, ça au niveau de la possibilité de dégradation future, ben ça représente un point faible. Fait qu'à Montréal, il y a beaucoup de services qui sont enfouis. Il y a beaucoup de différents intervenants qui sont à planifier leurs travaux, leur entretien. Donc ça, c'est une particularité qui fait en sorte que à Montréal, la gestion, la planification des travaux d'entretien, de réhabilitation de route, ben ça représente un défi qui est assez incroyable au niveau d'obtenir une chaussée de qualité. Donc je dirais que c'est un des éléments majeurs là à Montréal, c'est la planification de tous ces intervenants-là pour intervenir sur la chaussée.
OK, mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de maquillage, là, on patch en masse là, avec le piton, puis avec les cols bleus, puis tout ça, puis une petite pelletée, puis on compacte un peu. Là.
Ben, l'exemple que vous donnez par rapport au piton, ça, c'est vraiment de l'intervention palliative. Là, on est dans les nids de poules. Alors que l'exemple que je vous donnais, moi, c'est on vient couper une section de la chaussée. Pour ce qui est du nid de poule, ben effectivement, le terme maquillage est peut-être fort. Moi, je dirais que c'est plus une intervention là pour assurer la sécurité des usagers. C'est un peu de venir remplir un nid de poule, c'est un peu comme si vous avez un trou avec de la rouille sur votre voiture puis que vous le peinturez par-dessus. Ça donne le même résultat. Esthétiquement, c'est beau, ça paraîtra pas trop, mais à long terme, ça règle rien. Fait que quand on vient remplir un nid de poule avec du matériel à ce temps-ci de l'année, d'un point de vue durabilité dans le temps, c'est pas quelque chose qui est durable.
Okay.
Sauf que on n'a pas le choix de le faire parce que ça représente un problème de sécurité puis de confort aussi pour les usagers. S'il y a des nids de poule dans la chaussée, ben vous allez chercher à les éviter et ces manœuvres-là de dernière minute ben peuvent être potentiellement très dangereuses au niveau de la sécurité. Fait que c'est de mon point de vue, c'est ce à quoi ça sert les travaux qu'on fait en ce moment de remplissage.
Bon, l'autre question, est-ce qu'on utilise les bons matériaux puis est-ce qu'on a les bonnes méthodes pour faire, quand je parle d'une réparation durable, là, quelque chose qui va vraiment rester pour plusieurs années?
Si on parle des nids de poules, ben à ce temps-ci de l'année, peu importe le matériau qu'on va mettre dans notre nid de poule, c'est pas quelque chose qui va durer plusieurs années. Hein. On n'est pas dans les conditions qui sont propices en ce moment. Pour réparer un nid de poule, il faut...
J'allais dire au printemps, par exemple, et durant l'été. Là. Disons la saison là, où on fait des réparations importantes.
Mm-hmm. Ben, Écoutez, on a de très bons entreprises, très bonnes entreprises au Québec qui font des travaux routiers. On a des concepteurs qui ont de l'expérience. On utilise des super bons matériaux. Le problème, je vous dirais, c'est surtout l'exemple que je vous donnais par rapport à l'intervention multiple qu'on retrouve. Donc, parfois, on peut reconstruire une chaussée de la meilleure façon possible, mais si 2 mois plus tard, on vient enlever une section et on répare cette section-là d'une manière qui est moins optimale, ben ça peut représenter une faiblesse pour la route. Donc, c'est ces réparations-là à l'échelle à court terme sur la nouvelle chaussée qui sont surtout problématiques. Puis parfois, ça arrive que ces réparations-là sont faites avec des matériaux pas nécessairement de moins bonne qualité, mais les techniques qui sont utilisées sont peut-être pas optimales pour obtenir une durabilité qui est équivalente là, à une chaussée neuve.
OK, mais est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, des recherches qui se font, est-ce qu'il y a des matériaux nouveaux, des technologies nouvelles qui feraient en sorte qu'on aurait donc peut-être des approches différentes et plus durables?
Ben écoutez, moi c'est une drôle de question. Moi, à chaque année, je me fais poser la même question. Je suis un chercheur dans les matériaux bitumineux, donc on me demande toujours si j'ai trouvé la solution nid de poule. Puis je leur réponds que oui, on l'a trouvé la solution, ça fait longtemps. Ensuite, est-ce qu'on a les moyens financiers pour implanter les techniques de conception, les techniques de réhabilitation qui seraient les plus optimales? Ben c'est là la grosse problématique. On a des réseaux d'infrastructures qui sont assez vaste à entretenir et des budgets d'entretien qui sont de plus en plus limités. Moi, je vous dirais que le problème, c'est pas au niveau de la recherche, c'est vraiment au niveau des moyens qu'on dispose en tant que société pour implanter ces nouvelles technologies-là puis ces nouveaux concepts de dimensionnement de chaussées-là.
OK, mais partagez avec les auditeurs, qu'est-ce que vous avez trouvé ou vos collègues chercheurs ont trouvé la technologie, puis après ça, vous me direz combien ça coûte?
Moi, je suis pas un spécialiste des prix.
Non, non, mais en gros, là, c'est quoi que vous avez trouvé?
Ben, par exemple, moi, je travaille surtout en milieu des municipalités, mais des petites municipalités qui ont des réseaux routiers importants à entretenir, mais très peu de moyens. Donc, on vient planifier des interventions de réhabilitation de chaussées sur une plus petite distance. Donc, on en fait moins en termes de kilomètres de réfection à chaque année. Mais on intervient de plus en profondeur. Donc, on vient vraiment s'intéresser pas juste à la couche de surface qu'on voit, donc le revêtement, mais on vient réparer toutes les couches qu'on a sous-jacentes au revêtement bitumineux. Donc, on vient augmenter la capacité portante de notre chaussée en y injectant des différents matériaux. Et après ça, bien, on reconstruit nos chaussées neuves par-dessus. Donc ça coûte plus cher que de faire une réfection traditionnelle. Sauf que d'un point de vue de durabilité, ben on vient allonger la durée de vie de notre chaussée. Donc on a un retour sur investissement qui est plus gagnant. Par contre, ces techniques-là, ils ont des défis. Et c'est ça sur quoi je travaille, moi. Ces techniques-là sont sensibles aux conditions météo. Donc là, on doit comprendre l'effet de la météo sur les matériaux. Ensuite, comment on s'assure de pouvoir contrôler la qualité des matériaux en chantier? Donc, est-ce que j'obtiens suite aux travaux les performances à quoi je m'étais attendu lors de ma conception. Comment je dois intervenir au chantier? Donc, on travaille beaucoup au niveau de encadrer ces techniques-là qui permettent d'obtenir des chaussées qui sont plus durables, les encadrer, aider les concepteurs à concevoir des chaussées avec des techniques innovantes qui sont plus durables. Donc, c'est un peu c'est sur quoi qu'on travaille. Les techniques qui sont existantes, on n'est pas des révolutionnaires. Les techniques qui sont utilisées partout dans le monde, mais qui ont besoin d'aide pour être adaptées au contexte québécois, donc contexte climatique particulier, contexte normatif, contexte contractuel qui est particulier aussi. Donc, on travaille là-dessus pour aider les acteurs de l'industrie à utiliser des techniques qui permettent de bonifier la durée de vie des chaussées.
En attendant, on mettra toujours un peu de peinture sur la rouille. En attendant, on fera ce qui est urgent pour éviter des accidents. Puis, j'allais dire, espérons pouvoir faire des réparations qui sont pas temporaires, là, mais qui vont durer, comme on dit, plusieurs années. Merci d'avoir été avec nous.
plaisir.
Au revoir. Éric Lachance Tremblay est professeur au département de génie de la construction de l'ETS, École de technologie supérieure. C'est un peu la section Les mystérieux nids de poule. Ils vont très bien à Montréal. Ils se multiplient. Il n'y en a jamais eu autant. Et souvent, puis je le vois, puis on parlait tantôt de l'exemple, je pense sur Cathédrale, la voie du centre. Quand vous prenez la Gauchetière, ici près de Mansfield, l'hôtel Bonaventure, la gare en face, c'est un endroit où il y a beaucoup de circulation quand même, puis il y a un flot de touristes qui se promènent. Ça fait pas de bon sens. Ça fait des années et des années et des années que c'est pas un nid de poule. C'est comme une série de cratères qui se reproduisent. Qui font en sorte que la chaussée est complètement chaotique. C'est jamais là, une crevasse a pu finir, mais il faut voir les autos se promener là-dessus. Là. Bading, badang, à peu près tout le temps. Ben, on va aller tout de suite, justement, retrouver à quelques kilomètres de la ville de Bakhmout, à moins de 5 kilomètres du front russe, notre collègue collaborateur Fabrice de Pierrebourg. Bonjour, Fabrice.
Bonjour Paul.
Alors comment ça se passe dans cette ville là qui est très proche du front?
Oui, on est à Kostantinivka. Les premières lignes russes sont à moins de 5 kilomètres. Ils sont en arc de cercle autour de Bakhmout. Puis là, on est vraiment ouest-sud-ouest de l'entrée de Bakhmout, le long de la seule route qui mène encore là-bas, qui permet le ravitaillement des militaires ukrainiens et leur sortie aussi. Et on est en train de, donc c'est une ville qui a perdu les trois quarts de ses habitants, une ville de 70 000, 80 000 habitants, qui était avant la guerre un centre industriel avec beaucoup d'usines sidérurgiques, d'usines de verre. Et là, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Il reste plus que un dixième, un vingtième des habitants, ceux qui n'ont pas de famille, pas d'amis, qui savent ou qui attendent le dernier moment pour partir, Paul. Puis là, ils voient les Russes avancer. Et on parlait justement avec une femme d'une cinquantaine d'années qui est là avec sa mère de 84 ans. Elle dit on est effrayés, on ne sait plus quoi faire. Elle dit, ma mère, elle m'a dit, au prochain bombardement, je veux partir. Elle m'a dit, on ne sait pas où aller. Et des bombardements, il y en a tous les jours. Jour et nuit, dans cette ville-là, soit des mortiers qui tombent de façon indiscriminée. Puis on a vu les dégâts, là, sur des immeubles, sur un marché, etc. Et Paul, pendant qu'on était en train de parler, justement, avec un homme qui vend des légumes tous les jours dans une espèce de petit marché, mais qui est à moitié abandonné, il nous racontait comment hier encore, il arrivait trop tard à son petit kiosque. Parce qu'il n'était pas prêt, il avait traîné un peu chez lui. Et pendant qu'il a mis ses chaussures, il nous a dit qu'il a entendu un boom et il y a un obus qui est tombé, exactement à l'endroit où il devait installer son petit kiosque. Et pendant qu'il nous racontait ça, on a entendu avec mon fixeur un premier sifflement suivi d'une explosion, puis un deuxième dans le ciel. Et là, on n'a pas eu le choix que de partir. Tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. On a rejoint notre véhicule et on a décidé de quitter la zone parce que manifestement, les Russes avaient décidé de bombarder. Puis, ce qui était assez surréel, c'est que le curé ou quelqu'un dans l'église s'est mis à sonner les cloches comme un genre de tocsin pour dire là, ça barbe, mais on entendait que ça barbe. Donc, c'est un peu ça le quotidien de ces gens-là. Ils restent. Ils n'ont pas le choix. Alors, c'est une ville, on voit, et puis mon fixeur, il vient régulièrement ici, il m'a dit c'est la première fois que je vois autant de militaires qui sont positionnés dans cette ville-là, qui est vraiment pas loin de Bakhmout, comme s'ils étaient en train de se préparer finalement à un retrait. Et on voit qu'ils apportent des fortifications en béton le long de la double voie qui rentre dans Bakhmout. On a vu beaucoup de tanks dans les sous-bois, beaucoup de militaires positionnés dans des baraquements qui ont été abandonnés par les habitants. Mais moi, ce qui m'a frappé, puis j'entendais Jean-François parler justement de l'équipement, c'est que jusqu'à présent, moi, j'ai vu vraiment des blindés d'une autre époque. C'est vraiment du matériel antique. Il y a des camions vraiment délabrés. Oui, ils ont beaucoup de 4x4 récents. Il y a quelques Humvee américains, là, les petites jeeps blindées qu'on voyait pendant les différentes guerres en Irak et en Syrie. Mais à part ça, c'est beaucoup de matériel qui est très désuet, quoi. Mais ils tiennent vraiment à rester là. Et puis, juste avant, j'avais parlé au chef d'une équipe de médecins, d'infirmiers qui s'en vont au front. Lui, il est responsable pour une brigade d'assaut. Puis il me disait, c'est sûr, lui, là, il positionne le long du front, en fonction de l'avancement du front. À chaque fois, il y a tout un système, Paul, qui va chercher les blessés au front. Après, il y a un triage. Ceux qui sont grièvement blessés sont soignés ici, pas loin, parce qu'il faut les stabiliser rapidement. Les autres sont envoyés plus vers Kramatorsk, puis éventuellement vers Kiev, si c'est possible, quoi. Mais il me disait, 80% des blessures, c'est des blessures par bombardement. C'est à peu près 80% des soldats qui sont atteints grièvement par des éclats d'obus, qui sont donc dans les tranchées ou dans Bakhmout, puis très peu, à peu près 20%, c'est des blessures par balle lors d'affrontements directs dans les faubourgs de Bakhmout. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de leur motivation, c'est sûr, je disais, mais là, la ville est quasiment cernée, tout le monde dit qu'elle va tomber d'un jour ou l'autre, et c'est sûr que le discours officiel ou les gens sur place, même lui, mais on les sent comme insultés parce qu'ils voient beaucoup de politiciens ou de responsables militaires occidentaux, entre autres, il n'y a pas longtemps, le chef de l'OTAN, qui disait oh, « Bakhmout va tomber, Bakhmout va tomber, les Ukrainiens devraient mieux partir de là plutôt que de sacrifier des milliers d'hommes ». Lui, il dit que ses recommandations de quitter Bakhmout, il dit, sont inconcevables et inacceptables. Il dit, si on laisse cette ville-là aux Russes, on leur laisse une autre possibilité d'aller prendre d'autres villes plus loin, que plus grosses, comme Kramatorsk, Sloviansk, etc., et de reconquérir des parties qu'ils avaient été obligés d'abandonner pas plus tard qu'à l'été ou l'automne, quoi.
Merci beaucoup de cet éclairage important ce matin et toujours la prudence, Fabrice, dans les déplacements. Merci beaucoup.
Merci, Paul.
Au revoir. Fabrice de Pierrebourg, qui, je vous le rappelle, se trouve, bien sûr, en Ukraine, à moins de 5 kilomètres de Bakhmout, qui est la ville qui a été la plus touchée depuis quelques jours par les offensives russes et les bombardements.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, hier, on a appris que la santé publique de Montréal lançait une espèce d'appel à la vigilance concernant un produit qui s'appelle xylazine, qui est un produit pour animaux et qu'on retrouve dans certaines substances vendues sur la rue. Il y a des gens ce matin, je les vois, je me lisais dans la presse, des spécialistes qui affirment avoir jamais vu ce genre de produit circuler ou en tout cas avec des concentrations importante. On donnait l'exemple que 30% des 50 échantillons d'urine fournis dans une récente étude de gens qui avaient pris du fentanyl montraient donc la présence de ce produit. Alors, de quoi on parle exactement? Docteur Marie-Ève Morin est avec nous, médecin de famille, qui œuvre en santé mentale, en dépendance, fondatrice de la clinique Caméléon. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, ben, c'est quoi ça, le xylazine?
Oui, la xylazine, oui, c'est effectivement un médicament qui est utilisé en médecine vétérinaire pour les petits animaux, là, pour faire des anesthésies et tout ça. Mais écoutez, on est en pleine période de guerre en ce moment, là. Affirmer que la xylazine, là, va causer des décès et lancer une alerte comme ça, c'est un peu comme en pleine période de bombardement, se mettre à crier, attention, il y a une nouvelle mitraillette. Mais le problème, c'est pas la nouvelle mitraillette, c'est la guerre. Hein, fait que je pense que le problème qu'on voit en ce moment, puis les multiples décès, c'est effrayant comment il y en a beaucoup, c'est à cause de la dépendance aux opioïdes. Ce sont les opioïdes qui tuent, dont le fameux fentanyl. Et maintenant, il y a des méga-opioïdes encore plus puissants que le fentanyl, comme le carfentanyl, l'isotonitazène. Donc, je ne dirais pas là que c'est... Je ne dis pas que la xylazine n'est pas dangereuse, mais c'est... Il faut remettre en perspective comment ces échantillons urinaires-là ont été collectés. Mais, on n'a pas été faire des tests d'urine dans les écoles ou dans les bars. Là. C'est vraiment une clientèle cible. Il ne faut pas faire une campagne de terreur non plus avec cette substance-là, je pense.
Je comprends. Mais ça veut dire que ça circule dans la rue. C'est des trucs vendus sur le marché noir. Là. C'est pas des...
Oui, puis c'est pas nouveau. Hein. C'est vraiment pas nouveau qu'on voit des trafiquants mettre des ingrédients de coupe dans leur substance, qui imite l'effet de la substance mère, là, pour augmenter le potentiel, augmenter les profits, parce que ces ingrédients de coupe-là coûtent rien. Là, la xylazine, c'est vraiment pas cher, et ça imite un peu l'effet des opioïdes. Donc, c'est pour vraiment couper la substance. On peut faire un parallèle avec la cocaïne. Il y a plusieurs années, on sait depuis plusieurs années que la cocaïne en Colombie est coupée avec du levamisol. Le levamisol, c'est un vermifuge très toxique, mais qui va permettre, entre autres, à la cocaïne de se conserver dans le transport pour pas que ça moisisse. Mais ça, je veux dire, la levamisol est plus toxique que la cocaïne. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, la xylazine, c'est juste un ingrédient de plus parmi tous les opioïdes qui tuent davantage que les ingrédients de coupe.
M'avait dit tantôt qu'il y a quand même des décès. Là. On a toujours l'impression que ça part de Vancouver, ça descend vers Toronto, puis après ça, à Montréal, on commence à le réaliser. C'est quoi le portrait de Montréal là, sur ces cas de surdose de fentanyl?
Oui, c'est certain que la situation de la crise des opioïdes est quand même pathétique. Là, si on regarde ça, là, la progression des décès, on a annoncé la crise des opioïdes en 2016. Et à ce moment-là, on parlait de 8 décès par jour à peu près. En 2018, on parlait de 12 décès par jour. Et en 2022, de janvier à juin, on parle de 20 décès par jour au pays, dont 90% de ces décès-là sont en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Donc au Québec, oui, on est un peu épargné. C'est certain qu'il y a des décès quand même, mais on parle d'une crise des opioïdes qui est plus dans l'ouest du pays, c'est bien certain. C'est sûr qu'un décès, c'est un décès de trop, mais je pense pas là qu'il faut s'inquiéter tant que ça là, de la xylazine, parce que un opiomane est obligé de consommer. Fait que peu importe l'ingrédient de coupe qu'il y a dans sa drogue, il va la consommer de toute façon. Et il risque bien plus de mourir d'un arrêt respiratoire à cause du fentanyl que de plaies nécrotiques à cause de la xylazine, vous comprenez?
Oui,
c'est
un peu
comme sortir un bazooka pour tirer un maringouin.
Oui, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que l'élément le plus dangereux, ça demeure le fentanyl. Puis là, on rajoute évidemment des trucs qui coûtent pas trop cher pour couper la drogue.
Oh, exactement.
Mais c'est pas nouveau.
Okay, mais l'enjeu, c'est la crise des opioïdes et c'est de donner accès aux opiomanes à des traitements efficaces comme la méthadone ou la buprénorphine. C'est ça l'enjeu.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Morin.
Merci, M. Arcan. Bonne
Merci
journée.
À vous aussi. Docteur Marie-Ève Morin, qui œuvre comme médecin santé mentale en dépendance et fondatrice aussi de la clinique Caméléon. Parlons du programme de fidélité Air Miles. Depuis quelques jours, les nouvelles sont pas très bonnes. Il y a beaucoup de consommateurs qui possèdent la carte qui sont inquiets, alors qu'on laisse sous-entendre que l'entreprise qui opère Air Miles pourrait rapidement se tourner vers la loi sur la protection sur les faillites. Et là, on apprend ce matin, dernière heure, si on veut, que BMO vient de racheter le programme Air Miles. Je vais en parler avec Marie-Ève Fournier, qui est chroniqueuse spécialisée en consommation à La Presse. Marie-Ève Fournier, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, BMO, là, ça vient tout juste d'arriver, là, l'annonce de l'achat du programme.
Ben oui, coup de théâtre hein, ce matin, parce qu'hier, tout ce qu'on avait comme information, ça venait de Bloomberg là, c'était que l'entreprise, le maire de Air Miles, allait probablement se placer à l'abri de ses créanciers dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et on avait deux paragraphes d'information et c'est tout. Et là, bon, évidemment, ça a créé tout un vent de panique. Tout le monde se demandait, est-ce que je dois tout de suite hein, écouler, échanger mes Air Miles? Il y en a qui les additionnent, là, qui les accumulent depuis des années, qui espèrent faire un gros voyage. Et là, bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et ce matin, ben, coup de théâtre, comme je disais, on apprend que l'entreprise, premièrement, s'est déjà placée à l'abri de ses créanciers en vertu de la loi sur les arrangements en Ontario, et au même moment, la BMO a fait une offre d'achat qui devra encore là, être approuvée par le tribunal et il pourra avoir d'autres offres d'achat, donc mais BMO est la première à annoncer son intérêt pour le programme Air Miles.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là pour les gens qui nous écoutent ce matin puis qui ont un compte Air Miles puis qui ont tant de points? Est-ce que j'achète maintenant, je vide mon compte, j'attends, on fait quoi?
Bien, ça, c'est la grande question. La seule chose que je vois de très rassurante dans toute cette histoire, c'est que BMO dit dans son communiqué de presse qu'elle prêtera 70 millions de dollars à Air Miles. Donc, on comprend que bon, l'entreprise manquait d'argent, hein, c'est pour ça qu'elle s'est placée là, à l'abri de ses créanciers. Donc, ça donnait l'impression qu'il fallait se dépêcher à utiliser ses Air Miles. Là, avec le 70 millions de BMO, peut-être que ça va rassurer les gens. Peut-être que l'urgence est moindre, là, je dirais. Mais, bon, je pourrais comprendre tous ceux qui s'empresseraient d'utiliser leur Miles aussi parce que la transaction n'est pas approuvée encore. L'entreprise est à l'abri de ses créanciers. Je veux dire, tout peut arriver. Et puis jusqu'ici, Paul, moi, ce qui me marque dans toute cette histoire, c'est le manque de transparence. Je veux dire, hier, là, on ne savait rien, l'entreprise n'a pas réagi. Et là, ce matin, très, très tôt, on apprend que l'entreprise est déjà à l'abri de ses créanciers. Le dernier communiqué de presse d'Hermès, là, ça datait du mois de novembre. On n'avait rien su de tout ça. Bref, on n'est pas à l'abri des surprises. Et moi, étant une fille prudente de nature, là, j'ai vraiment le goût d'aller changer mes Hermès aujourd'hui.
Mais en même temps, Marie-Ève, depuis quelques années, c'est un programme de fidélité là, qui perd du lustre. Il y a des joueurs importants qui étaient des partenaires depuis longtemps, Jean Coutu, il y a des chaînes d'alimentation qui progressivement laissent tomber Hermès. Là. L'impression que ça vaut plus grand-chose.
Ben, on ne sait pas les détails financiers. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que ça vaut plus grand-chose en bourse. Là-dessus, vous avez absolument raison. Là, l'action, il y a un an, valait 19 $. Elle ne vaut plus que 58 sous. Ouais. D'ailleurs, le communiqué de presse de ce matin annonce que les actions de la compagnie mère d'Hermès, une compagnie américaine, vont être retirées de la bourse du Nasdaq. Mais bon, pour les consommateurs, effectivement, c'est un programme qui existe depuis 1992. Il y a 10 millions de ménages au Canada qui ont la fameuse carte bleue. C'est 2 ménages sur 3. Donc, c'est extrêmement populaire. Mais aujourd'hui, ben, étant donné qu'ils ont perdu, comme vous dites, Rona, IGA, Bureau en gros, Renault Dépôt, Jean Coutu, je veux dire, toutes les grosses enseignes, les grands détaillants qui acceptaient cette carte-là, l'ont tous abandonnée. Donc, c'est certain que pour les clients, c'est vraiment moins intéressant qu'avant d'accumuler des Hermès. Donc, présentement, ce que le programme fait, c'est qu'il mise surtout sur ses partenariats avec les cartes de crédit. Donc, vous obtenez des Hermès à chaque fois que vous faites une transaction sur Hermès Shop. Mais je doute fort que ce soit aussi attrayant pour les consommateurs là, que d'obtenir des 1000 en allant chez Jean Coutu à chaque semaine.
C'est clair. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonne journée.
Bonne journée.
Marie-Ève Fournier, donc, est chroniqueuse à La Presse. Très bien. Alors, notre amie Catherine nous en a parlé hier. Le retour tellement attendu de un gars, une fille, 25 ans plus tard. Extrait, Richard.
Allô, papa. Comment ça va?
Ça va, ça va.
Et t'as rendu avec Mo.
Mo?
Oui.
OK. Mo gars ou Mo fille?
Pourquoi faut toujours se poser ces questions-là?
C'est parce que des fois, t'es avec des gars, des fois, t'es avec des filles. Moi, je veux juste savoir s'ils jouent au baseball ou bien s'ils jouent à balle molle.
Guy, là, c'est pas de nos affaires. On est plus en 1997, là. Hein? Hein? Mais Yel est comment?
Ouais, Yel, Yul, Yul.
Je pense qu'on est juste nous trois, mais là, premièrement, faut pas mégenrer.
Ah. C'est quoi ça, mégenrer?
Mégenrer, c'est quand ça reste à une personne avec un pronom ou un genre auquel elle s'identifie pas.
Ah, mais moi, j'ai un excellent truc pour ça. Moi, quand je vois un monsieur, je dis bonjour, monsieur. Quand je vois une madame, je dis bonjour, madame. Puis quand je suis pas sûr, je dis bonjour. Je me suis jamais trompé.
Ah. On connaît déjà les répliques.
Déjà, on commence à apprendre oui. Ça par cœur. Les deux stars sont avec nous, évidemment. Guy Lepage, bonjour.
Paul Arcand, bonjour.
Et Sylvie Léonard qui est en ligne avec nous. Bonjour, Sylvie.
Bonjour.
D'abord, moi, j'ai une première question, puis après ça, t'embarques, là. Mais... 1997, il y avait Guy Lepage, Sylvie Léonard, vous étiez donc le couple et tout ça, puis c'était l'ère du temps. Moi, je veux savoir comment vous avez évolué 25 ans plus tard, parce qu'on peut être plus grognon, plus mature, plus ouvert, moins ouvert. Le personnage de Guy?
Ben, c'est que dans l'histoire, puisqu'on a une fille qui est militante, activiste LGBTQ+, ben ça nous donne une excellente occasion de se tenir au courant de ce qui se passe. C'est comme un truc d'auteur, là. C'est comme un petit truc de scénariste.
OK.
Alors ça nous permet d'avoir un pied dans la génération plus jeune que nous, mais en restant quand même des gens qui sont d'une autre génération, puis d'être à la fois décalé un peu, mais pas dépassé.
OK, Sylvie?
Ben oui, exactement. Pour moi, c'est important qu'on mette en scène un couple qui évolue, mais qui est moderne aussi. Alors, effectivement, ils sont d'une autre génération, donc ils ont des traits communs de leur génération, puis ça va vite aujourd'hui, mais ils sont pas complètement dépassés, comme s'ils avaient jamais vu l'évolution des dernières années aussi, comme s'ils disaient pas, comme s'il y avait pas de vie culturelle, comme... Donc, pour moi, c'est important que c'est un couple de 60 ans avec leur passé, mais aussi avec ce qui les entoure. Et c'est un couple moderne. Et même dans l'amour, dans leur relation amoureuse, c'est un couple moderne. On verra bien.
Il y a des tigalos, on le voit. dans...
Oui, il y a
des... C'est quoi, ça, un couple moderne dans la soixantaine? Dans l'amour, c'est quoi?
Ben, c'est... Ben, vas-y, Sylvie. Je l'aime, ton explication.
Ben, c'est des gens qui ont appris à se connaître, à se respecter l'un l'autre, mais aussi à se respecter en tant que couple. Tu sais, dans un couple, on est toujours trois. Il y a deux personnes, puis il y a le couple. Puis moi, je pense que pour que le couple dure, je suis pas psychologue, là, puis je suis pas une spécialiste, mais ça, c'est mon instinct de femme qui a vécu. Je crois que pour réussir un couple, il faut que les trois fonctionnent. Pas à 100%, parce qu'on a toujours nos travers et... Puis il y a des choses sur lesquelles on boque, mais il y a des choses aussi sur lesquelles on laisse aller. Alors, si on se respecte, puis on va dans respecter nos besoins chacun, ben le couple a plus de chances d'avoir quelque chose qui les unit.
Puis il faut pas oublier aussi que les vieux, là, ont été jeunes aussi. Des fois, c'est juste des terminologies là qui ont changé. Tu sais, je fais un gag dans l'émission où je dis... où notre fille parle d'une de ses amies qui est « trend ». Puis là, je dis, ça veut dire qu'elle passe d'un... Puis là, je dis, ah oui, nous autres, dans notre temps, on appelait ça des lesbiennes de fin de semaine. Puis c'est quoi le polyamour? Nous, dans notre temps, c'était une session à l'université. Je dis, c'est la même maudite affaire. Pas de face, là.
Moi, c'est une visite dans une commune.
Ben, c'est ça.
Mais c'était ça. Fait que polyamour, c'est un nouveau terme, mais...
Qui dit la même affaire? Vous avez rien inventé, jeune.
C'est ça, mais est-ce que ça choque? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on l'a souvent mentionné à l'émission, des fois, il y a des termes où qui sont plus difficiles à dire, puis il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas choquer un, il ne faut pas choquer l'autre. Puis je sais qu'avec RBO, tu t'es un petit peu dédouané, entre guillemets, Guy, pour dire ce que tu avais envie de dire, mais 20 ans plus tard, est-ce qu'avec un gars, une fille, il y a des choses que vous vous êtes dites, ben là, on va peut-être y aller différemment dans les termes, que ce soit les dick pics que vous parlez ou...
Pas tant, non?
Mais pas non, pas tant, mais nos enfants ou les gens autour de nous qui sont activés dans... vont nous le ramener aussi.
Ben oui.
Qui vont nous, tu sais, c'est sûr que notre fille, quand on utilise un mot qu'elle trouve, ben, vous allez voir, de toute façon, il y a une scène qui s'en vient dans le troisième ou quatrième épisode qui est hilarant là-dessus. Mais, notre fille, elle nous corrige au fur et à mesure aussi. Alors, on n'était pas pour nous se couper de ce qu'on pense en général, parce que Sylvie et Guy, c'est un couple particulier qui représente un certain nombre de couples, mais qui est unique en soi. On n'était pas pour, s'empêcher d'être ce qu'ils sont aussi.
Non, mais c'est pas un couple qui va prendre de front leur fille, là, puis qui va dire, là, écoute, là, vous charriez un peu, ou...
comme chaque parent.
Ben oui, ben on les aime, nos enfants. Hein? Donc, quand t'es aimes, t'essaies de les comprendre, tu fais du chemin vers eux, ils font du chemin vers toi. Moi, je trouve que
ils
c'est...
Ils pensent avoir tout inventé.
Ben oui.
Puis, tu sais, on les remet à leur place aussi.
Puis on pensait ça dans notre temps. On pensait qu'on expliquait à nos parents que c'était nous qui étaient cool. Ils font la même affaire qu'on a fait, nous, à nos parents.
Et là, le premier épisode est sorti hier officiellement sur l'extra de Tout.tv. Les réactions, de ce que j'ai vu, en tout cas, sont excellentes.
Ouais, c'est fou. C'est fou.
Est-ce,
là,
que, t'es sur... Est-ce que c'est plus c'est nostalgique ou t'as vraiment un nouveau public d'un gars, une fille?
Ça, je le sais pas. Mais les commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux et dans les critiques, là, je veux dire, c'est un genre d'unanimité. Mais évidemment, moi, ça fait pas partie du reste de ma carrière, l'unanimité.
Non, tu dois être un peu déçu, même.
Je trouve ça
c'est un peu plate, finalement, d'être...
Tu dois être fatigué.
Selon moi, on a raté la cible. Non, mais pour moi, en tout cas, un gars, une fille, c'est mon safe space. Je sais que quand je fais un gars, une fille, que je suis avec Sylvie, qu'on présente nos petites histoires de couple, puis nos travers, puis notre amour, puis etc., je sais que ça peut pas mal aller. Puis quand on l'a vu, tu sais, hier, on nous demandait, êtes-vous nerveux? J'ai dit pas le bon mot. On veut que les gens aiment ça, mais Sylvie et moi, on les a vus, les quatre épisodes, au complet. C'est ce qu'on voulait faire. Fait que nous autres, on est contents.
Mais là, en même temps, il va y avoir une demande pour quatre autres, puis quatre autres, puis quatre autres.
Je suis sûr que ça s'en vient.
Ben,
convaincu.
Ce qu'on s'est dit, c'est un cadeau pour le public, pour les 25 ans, puis on a dit, on verra la réaction. Puis si les gens aiment ça, ben nous, Sylvie et moi, le plaisir est intact de travailler ensemble. Vraiment, là, c'est revenu, c'est de la petite magie, là. Fait que on attend On attend les demandes spéciales.
Mais c'est sûr qu'on n'est pas fermé du tout.
Mais avec la fragmentation de la télé, parce que à l'époque, un gars, une fille, c'est une fois par semaine à la télé traditionnelle. Ça me fait drôle de dire ça, je me sens vieille. Mais là, maintenant, c'est sur les plateformes numériques. Après, ça va passer à la télé. Il y aura pas. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il peut y avoir deux publics ou ça peut être difficile d'aller chercher l'auditoire si on parle juste des codes d'écoute, entre guillemets?
Bien, les codes d'écoute, là, c'est fait pour les gens qui vendent de la pub, tu sais. Puis qui disent, ça, c'est la tranche d'âge payante. Honnêtement, ça nous concerne pas, tu sais. Moi, j'aime ça savoir que l'émission, c'était le cas d'un gars, une fille, que ça rejoignait la tranche payante. Paul rejoint la tranche payante. Mais il fait pas ça pour rejoindre la tranche payante. On fait ça pour que les gens aiment
ce qu'on fait. Ce qu'on aime d'abord. Puis on essaie que les gens aiment ça en même temps.
C'est ça. Oui. Fait que moi, là, que tu me regardes sur ton téléphone en différé, en streaming, en direct, deux fois, en reprise, que tu l'aies enregistré ou pas, je m'en calisse, je veux juste que tu la regardes.
Ah, on fait tout faire ça, Guy?
Oui. Oui, je t'expliquerai, Sylvie.
On va t'expliquer Google Maps aussi.
Cool!
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là, puis c'est vrai que c'est pas mal bon.
Ben, merci beaucoup.
Mais c'est drôle, juste...
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Oui. Je parlais avec Claude Meunier qui va ramener La Petite Vie. Puis j'ai posé à peu près le même genre de questions, tu sais, sur as-tu peur de provoquer? Puis là, tu sais, bon, on se souvient de la Radio-Canada qui met son avertissement, une autre époque, une autre... Bon, il dit pas en tout. Il dit, je vais parler des affaires, mais tu sais...
J'ai le goût de parler.
Ben oui, puis des trans, puis des... je vais parler de ça, mais dans le cadre de La Petite Vie.
Mais moi, je voulais en proposer un à Radio-Canada pour le premier épisode, c'est... Cette émission contient des scènes avec des vieux qui fourrent. Nous préférons vous en avertir.
Non, ça a été refusé.
Oui, j'imagine que Radio-Canada dit non.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.